Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est déjà le week-end, les semaines passent vite en votre compagnie. Merci d'être avec nous et de nous être fidèles. Je vous espère en forme et avec le moral. Dans Nous voilà bien, de 9h15 à 10h tous les samedis, on vous donne plein d'infos conso pour vous simplifier la vie et vous adoucir le quotidien, surtout en ces temps si particuliers. Alors on ne perd pas une minute, c'est parti pour le sommaire. Ce reconfinement est un peu différent de ce que nous avons connu en mars et les produits de première nécessité sont au cœur de bien des questions. Alors, que peut-on acheter ou pas en magasin? Le point avec Armelle Lévy, notre journaliste de première nécessité au service éco et conso d'RTL. Nous sommes les premiers consommateurs de beurre au monde avec 8 kilos par an et par personne. Ça valait bien que l'on s'intéresse à ce produit dont nous voilà bien. Comment donc choisir son beurre et l'utiliser au mieux? Tous les conseils avec la diététicienne nutritionniste Solveig Darigaud d'Artinet. Il nous réchauffe le corps et le cœur. Nos plats traditionnels familiaux sont particulièrement réconfortants dans ce confinement bis. Alors, est-ce compliqué à cuisiner? Atelier culinaire avec Sonia Esgulian qui est cuisinière, auteure et journaliste.
Je fais de toi.
Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Depuis le 29 octobre, depuis bientôt 3 semaines donc, ce sont plus de 200 000 commerces dits non essentiels qui sont contraints à la fermeture. Ça veut dire quoi, Armelle, un produit non essentiel?
Alors, vous faites bien de poser la question, Flavie, pour y voir plus clair, parce que là, c'est un vrai casse-tête. Cela paraît complètement aberrant, incompréhensible. Le gouvernement a choisi des critères très particuliers, mais avant de vous expliquer, on va faire un quiz. Ce sera à vous de me répondre par oui ou par non. En ce moment, en boutique, est-ce que vous pouvez acheter des bottes d'hiver?
Non, je ne pense pas.
Non, ce n'est pas un produit essentiel. Et des cigarettes?
J'ai vu un tabac ouvert, donc oui, j'imagine.
Oui, c'est essentiel. Maintenant, des livres?
Alors non, et ça n'est pas normal. Enfin, pardon, mais pour moi, la lecture est essentielle. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur change.org pour demander la réouverture des librairies.
Et du rouge à lèvres, alors? Est-ce que c'est essentiel?
Non, c'est pas du tout essentiel, surtout en ce moment qu'on porte les masques.
C'est un produit essentiel.
Arrête.
Et du parfum en parfumerie?
Non plus.
Non. Et le petit sapin déodorisant pour la voiture, est-ce que c'est essentiel?
Non, ça m'apparaît
totalement... Eh bien si, c'est essentiel puisque la voiture est autorisée pour se déplacer au travail. Et par contre, pouvez-vous acheter en magasin un réfrigérateur qui lâche pendant le confinement alors que les restaurants sont fermés?
Évidemment, j'espère bien.
Eh bien non, c'est pas essentiel.
Super.
Ça fait partie du gros électroménager vendu exclusivement en ligne pendant le confinement. Et alors, attention, là il y a encore un piège. Pouvez-vous acheter aujourd'hui en boutique une doudoune d'hiver pour votre enfant de 2 ans?
J'espère.
Oui, vous pouvez. Le rayon habits pour nouveau-nés et nourrissons est ouvert. Mais pas une doudoune pour un enfant de 4 ans. Ça, c'est du textile. Et le textile, c'est un produit non essentiel. Donc, on arrive à des aberrations.
Oui, et que l'on entend là, effectivement, à travers votre démonstration. Avec le reconfinement, sur quoi se base le gouvernement, justement, pour établir cette liste, du coup?
Eh bien, le gouvernement établit une liste de produits utiles pour le quotidien. Ce sont des produits de tous les jours, dont on ne peut pas différer l'achat en magasin, contrairement à d'autres produits dits non essentiels, dont on peut reporter l'achat.
Alors, quels sont les produits dits essentiels aujourd'hui?
Alors, on trouve tout l'alimentaire, indispensable pour se nourrir au quotidien, y compris tout ce qui est boissons, vin et alcool, pour les apéros Skype ou FaceTime.
Attendez, je vous interromps, le vin, c'est un produit essentiel?
Oui, quand même, au pays de la gastronomie. Même si le vin ne figure pas dans la liste des produits dits de première nécessité, qui eux bénéficient d'une TVA réduite, il figure bel et bien dans la liste plus large des produits essentiels du gouvernement. Vous pouvez acheter aujourd'hui du vin en supermarché ou chez votre caviste, parce qu'il fait partie des boissons englobées dans l'alimentaire. Dans la liste du gouvernement des produits essentiels, on trouve aussi la pharmacie, indispensable pour se soigner, et le tabac, pour un fumeur, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas lui demander d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Mais en plus de ça, et ça on le dit moins, les taxes sur les cigarettes rapportent quand même beaucoup d'argent à l'État. 15 milliards d'euros rien que cette année.
Voilà.
Ce serait dommage de s'en priver. On revient à la logique de cette liste. Comme on est incité à télétravailler et comme les enfants vont à l'école, tout ce qui est papeterie, fourniture de bureau, encre, imprimante sont considérés comme essentiels. Même chose pour le petit bricolage, clous, vis, marteau, c'est considéré comme essentiel. Et dans la même veine, si votre ordinateur ou votre voiture tombe en panne, vous êtes obligé de les réparer. Donc les réparateurs et les garagistes sont autorisés à ouvrir. C'est toujours ça la logique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut reporter comme dépense ou pas reporter, sachant que les réparations, on ne peut pas les faire à distance.
Alors pardon, parce que ça va vous paraître insistant, mais les livres dans tout ça, moi je comprends pas, ce ne sont pas des produits essentiels, les livres.
Ah bah alors, je vous dirais bien oui, mais non, ils ne sont pas reconnus comme tels. Le gouvernement dit que ce n'est pas comme l'alimentation. C'est sûr, un livre, ça ne se mange pas. Pourtant, ça se dévore. Hein. Mais plus sérieusement, le gouvernement explique que vous avez tous encore à la maison des livres dans votre bibliothèque que vous n'avez pas lus. Et que de toute façon, si les librairies sont fermées, vous pouvez commander un livre sur Internet ou l'acheter en click and collect pour le récupérer chez votre libraire. Mais je vous le concède, la fermeture des librairies, ça a du mal à passer. Et pour cause, cette notion de produit essentiel ou non est totalement artificielle. Elle ne correspond à rien de fondé, elle a été créée de toutes pièces. Cette liste n'a pas été motivée par un principe de précaution sanitaire. Une librairie, il y a malheureusement rarement la foule. Non, il s'est passé quelque chose qui a fait basculer par rapport au premier confinement.
Mais alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est différent du premier confinement?
Eh bien, cette liste a été établie uniquement pour un principe d'équité concurrentielle. Elle a été conçue pour établir une paix commerciale entre les petits et les grands. Je m'explique. Contrairement au premier confinement, aujourd'hui, davantage de Français continuent à travailler, les écoles sont ouvertes, les grands magasins culturels comme la FNAC ont le droit d'ouvrir puisqu'ils vendent des cartouches d'encre et des ordinateurs, et les grandes surfaces aussi puisqu'elles vendent de l'alimentaire. Et les Français ont beaucoup moins peur aussi d'aller dans les grandes surfaces que lors du premier confinement. Donc dans ce cas, comment expliquer aux libraires qu'ils sont obligés de fermer boutique alors que les grandes enseignes peuvent continuer à vendre des livres? Les libraires ont dénoncé une effroyable injustice et le gouvernement les a entendus. Il a répondu que ce n'était pas pour les punir, donc il a ordonné de fermer tous les rayons livres.
Oui, alors là je me permets, ok, d'accord, mais néanmoins c'est nous priver d'intelligence, de culture, d'ouverture sur le monde, de tolérance, enfin de toutes ces occasions là, c'est pire que tout, vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est mon point de vue.
Mais alors les petits commerçants, eux, comme les libraires, ne demandaient pas ça, ils demandaient juste de pouvoir continuer à travailler en restant ouverts dans le respect des règles sanitaires, parce que derrière chaque pas de porte, derrière chaque boutique, il y a des vies, des hommes et des femmes désespérés qui sont empêchés de travailler.
Exactement. C'est la même chose pour d'autres rayons ou pas?
Oui, c'est la même chose quand un Jiffy dit « moi je vends des produits pour animaux donc je peux rester ouvert » pour vendre de la vaisselle et des articles de maison alors que les magasins de déco sont fermés, ou une jardinerie qui reste ouverte alors que le fleuriste est fermé. Le gouvernement a dit non, on condamne ces rayons parce qu'il ne voulait pas dire aux petits commerçants « votre boutique on la ferme alors qu'on continue à vendre dans les grandes enseignes ».
Alors, on a encore plein de questions à vous poser, Armelle Lévy, évidemment, parce qu'on y voit un petit peu plus clair sur tout ce qui nous apparaît quand même toujours très trouble, hein, avec vous. On va se retrouver dans un instant pour la suite de Nous voilà bien. Ensuite, on parlera du beurre. On a plein de questions à poser à Solveig Darrigaud-Dartinet. Et puis, Sonia Esguillon nous donnera une recette d'un bon plat radis qui va nous faire du bien et nous remonter le moral ce week-end. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Est-ce que vous cuisinez beaucoup au beurre? Dans un instant, Solveig Darrigaud-Dartinet va nous donner plein d'informations sur ce produit que l'on consomme énormément. Et puis la différence entre le beurre doux, le beurre demi-sel, ok, mais la margarine, c'est quoi? Eh bien, toutes les questions seront posées dans un instant. Le plat traditionnel est tendance aujourd'hui. C'est Sonia Esguillon qui viendra un petit peu plus tard dans l'émission nous donner des recettes qui vont nous faire chaud au corps et au cœur. Mais pour l'heure, produit première nécessité avec Armelle Lévy.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu.
Ouais, enfin bon. Il en faut peu pour être heureux, mais enfin, il y a quand même des trucs qu'on ne comprend pas hein, dans ces produits de première nécessité qui sont au cœur de bien des questions. Que peut-on acheter ou pas en magasin? On fait le point avec vous, Armelle Lévy. On a déjà donc compris certaines des aberrations hein, qui sont là. En tout cas, on les a encore mises en valeur ce matin. En dehors des grandes surfaces, il y a quand même des commerces qui sont autorisés à rester ouverts.
Oui, tous les métiers de bouche, traiteurs, bouchers, primeurs, boulangers.
Oui, c'est ça.
Et aussi les quincailleries pour les piles, ampoules, les merceries et retouches pour confectionner les masques, les drogueries pour les produits de nettoyage, sans oublier les jardineries. Mais pour elles aussi, c'est curieux pour ne pas dire ubuesque. Elles sont ouvertes pour vendre des graines et des semences et de la nourriture pour animaux. En revanche, elles n'ont pas le droit de vendre des fleurs comme les fleuristes sont fermées. Sauf si, attention, écoutez, c'est magistral, sauf si ces jardineries font moins de 400 mètres carrés. Là, elles ont le droit de vendre des fleurs.
Quoi, je comprends pas. Oui, pourquoi?
C'est pas la même règle. 400 mètres carrés, c'est ce qui distingue une supérette d'un supermarché. D'ailleurs, dans les petites supérettes, comme il y a assez peu de non-alimentaires, les rayons non-alimentaires interdits ailleurs ne sont pas condamnés. Alors, un dernier mot juste encore sur les jardineries. Vous allez pouvoir acheter dans une jardinerie votre sapin de Noël. Finalement, après de longs débats, c'est autorisé, comme sur les parkings des grandes surfaces ou sur les marchés. En fait, c'est le moment de la récolte pour les producteurs. Ils s'inquiètent regrettaient de ne pas pouvoir trouver des réseaux de distribution pour les vendre. Donc désormais, les sapins pourront donc être vendus en plein air pour éviter les files d'attente dans les magasins.
Et sinon, j'y pense, là, comme tous les autres produits, ils restent disponibles en fait sur le net.
Oui, bien sûr. Hein. D'ailleurs, si les petits commerces sont fermés et si certains rayons des grandes surfaces sont bâchés ou scotchés façon scène de crime, qu'est-ce qui reste pour acheter ce qu'on veut quand on veut ? Internet. Ouais. Vous trouvez tout sur Internet et notamment sur Amazon. Le géant américain a annoncé avoir multiplié par 4 ses résultats cette année. Son chiffre d'affaires a bondi de 37% pendant le premier confinement. C'est colossal le gain. Ça monte en flèche. Mais tous les autres acteurs pleurent.
Bah forcément. Forcément, il faut soutenir, moi je trouve, nos commerçants de quartier.
Ah, vous avez raison, les parfumeries, les magasins de jouets qui font la moitié de leur chiffre d'affaires de Noël en novembre et décembre, là ils sont fermés. Aujourd'hui, les hypermarchés doublent leur offre de jouets sur Internet, les magasins spécialisés et les petites boutiques s'y mettent aussi. Mais rien ne vaut le conseil et tout le monde ne sait pas se servir d'Internet. La Fédération du jouet estime à 770 millions d'euros les pertes pour le secteur si les magasins ne rouvrent pas. Et mécaniquement, quand un magasin n'ouvre pas, cela veut dire moins de débouchés pour les fabricants, y compris les petites entreprises françaises, genoux à terre, à qui on dit qu'on ne peut pas écouler la marchandise. Et donc derrière, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés. Et c'est pour cela aussi que les grandes surfaces accueillent maintenant sur leur site des marques françaises et des petits producteurs en guise de solidarité. Et c'est aussi pour cela que les fédérations de commerçants demandent aux pure players, à ceux qui vendent exclusivement en ligne, de renoncer au Black Friday fin novembre. Ces commerçants n'ont pas le droit d'ouvrir leur boutique et ils se retrouvent face à des mastodontes qui vendent à prix réduit, alors qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens aujourd'hui d'écouler les stocks normalement.
Oh, qu'est-ce que c'est dur. Vraiment, il y a le click and collect aussi. Hein. On a vu certains petits commerçants développer le click and collect. Vous pouvez commander en ligne. Ils ont tous monté leur site à toute vitesse. Ils font en sorte de pouvoir maintenir leur activité. Donc, soutenons ces commerçants qui sont près de chez nous en allant chercher finalement les biens que l'on achète sur leur site internet. Voilà, ils mettent souvent des petits panneaux hein, sur les portes de leur commerce. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même un bon moyen de leur permettre de continuer à travailler. Ça, c'est quand même une stratégie de résistance des petits commerces.
Ben oui, c'est même un motif justifié de déplacement sur votre attestation. C'est la case numéro 2, déplacement autorisé pour le retrait de commande. Donc le principe, hein, vous passez commande en ligne ou par téléphone et vous venez récupérer votre marchandise chez le commerçant. Pendant le confinement, cela leur permet de maintenir une activité et de faire entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires habituel. Oui. Pour certains, vous avez raison, Flavie, ça les sauve et c'est souvent le seul moyen qu'ils ont de continuer à vendre. Pour les aider, Bercy a annoncé aux commerçants que le montant des ventes réalisées en click and collect ne seront pas comptés dans le calcul des aides. Donc, ça ne va pas les pénaliser pour toucher le fonds de solidarité. En revanche, Flavie, si le click and collect est autorisé, est-ce que vous connaissez le ask and collect ?
Bah, j'imagine que c'est une demande, mais je ne connais pas.
En fait, c'est interdit. Alors, c'est un nouveau mode d'achat qui est apparu pendant le second confinement dans les supermarchés. Vous remplissez un bordereau pour demander un article et un employé franchit les rubans rouges qui barrent les rayons proscrits pour vous les ramener. Mais le gouvernement l'a interdit pour éviter les longues files d'attente à l'accueil des magasins, alors que le but de toutes ces fermetures et de ce second confinement, ne l'oublions pas, c'est justement de ne pas se contaminer et donc de réduire les contacts physiques et le temps passé dans les magasins.
Merci Armelle Lévy pour ce point qui a été très clair. Et en même temps, ces aberrations qui continuent d'exister, on est bien d'accord dans certains cas. Et on a une pensée pour tous les commerçants, évidemment, qui nous écoutent. Armelle Lévy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Vous consommez beaucoup de beurre, vous, Armelle ?
Ah oui, beaucoup. Vraiment.
Eh bien, justement, restez à notre écoute parce qu'on va faire un point avec Solveig Darrigaud-Artinet qui nous rejoint tout de suite. Du pain et du beurre, Claude François qui chante en ce samedi matin sur RTL. Solveig Darrigaud-Artinet, bonjour. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Que contient le beurre que l'on consomme tant ?
Eh bien, surtout du gras, donc 80% de matière grasse. Voilà, pas calme. Et puis surtout des graisses saturées. Donc la majorité des graisses, 60%, ce sont des graisses saturées. Un petit peu d'insaturées, 35 à 40%, qui sont plutôt les graisses qu'on trouve dans les huiles, et un petit peu de cholestérol, et ce qui lui donne sa belle couleur jaune, c'est la vitamine A. Voilà.
Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans et qu'est-ce qu'il y a de mauvais ?
Ben, disons que les graisses saturées, le problème, alors c'est pas que le beurre, mais c'est qu'on en consomme un peu trop aussi dans les fromages, dans les charcuteries, et du coup les graisses saturées en forte dose, eh bien ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Donc c'est un petit peu ça le souci, donc il faut pas trop en abuser. Maintenant c'est pas pour ça qu'il faut le supprimer complètement.
Hein. C'est comme tout le reste, avec modération. C'est super calorique le beurre ?
Ben oui, c'est on va dire une petite barquette de 10 grammes ou une noix de beurre, c'est 75 calories, hein, c'est 750 calories pour 100 grammes, donc ça grimpe très vite, un petit peu moins que les huiles qui sont à 100% de lipides, hein, de gras, mais c'est vrai que ça monte très vite quand même.
Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Il faut utiliser du beurre ou de l'huile pour cuisiner ?
Alors, pour cuisiner, on privilégie plutôt les huiles. Alors, à la mode méditerranéenne, hein, le régime méditerranéen, donc plutôt huile d'olive, qui supporte assez bien les températures. Donc ça, c'est l'idéal. Et puis, pour tartiner, le matin, bah, on peut réserver le beurre, voilà, sans problème. Hein, du moment qu'on mange pas 15 tartines, ça pose pas de problème.
Mais il n'y a pas des aliments qui des ingrédients que l'on cuisine plus facilement au beurre? Je pense, par exemple, aux viandes, quand on veut les saisir. En général, on les saisit dans du beurre, non?
Oui, oui. Alors, c'est vrai que quand ça reste occasionnel et puis que le D'accord. beurre que le beurre ne va pas virer couleur noisette voire plus sombre, voilà, c'est qu'on ça. Est dans des justes températures et qu'on n'abîme pas le beurre. Sinon, on va déclencher ce qu'on appelle la réaction de Maillard qui va un petit peu brunir le beurre et qui fait que justement on a des substances toxiques. C'est pour ça qu'on privilégie plutôt le beurre à tartiner et à cuire plutôt les huiles qui supportent plus facilement les fortes températures dans une poêle.
Donc ça veut dire pour tous ceux qui nous écoutent, moi j'en connais hein, des viandards qui adorent racler le fond de la poêle pour mettre cette sauce un peu brunâtre, ce beurre un peu cramé en fait sur leur viande, ouais, que c'est vraiment ouais. mauvais pour la santé, ouais, on ne fait pas ça.
Ouais, faut pas y aller trop fort en température en ce qui concerne le beurre et puis il faut que ça reste plus occasionnel et sinon on essaye plutôt de cuisiner à l'huile d'olive, même les légumes, ça, y a plein de choses qui passent bien quand même aussi à l'huile.
Il existe différents types de beurre, le doux, le salé, le clair, le fin, moi je suis complètement paumée.
Oui, alors celui qu'on consomme le plus, c'est du beurre doux pasteurisé, donc c'est fait à base de crème pasteurisée. Alors on peut choisir le extra fin, hein, qui est un peu plus qualitatif. Après, c'est vrai que on a les beurres demi-sel qui contiennent 0,5 à 2% de sel. Le salé, le beurre salé qu'on trouve finalement un peu moins, peut-être plus en Bretagne, là il y a 3% de sel. Donc c'est vrai que pour les crêpes, les galettes bretonnes, c'est quand même un petit peu plus savoureux. Et puis il y a toute cette gamme de beurre allégé aussi qui sont non pas à 80, mais plutôt à dont la célèbre marque, dont je ne citerai pas le nom, mais 41%, donc la moitié quand même de matière grasse. Et puis on a des beurres tendres aussi qui ont été développés pour être un peu plus tartinables, parce que quand on sort le beurre du frigo, eh bien le problème c'est qu'on n'arrive pas à l'étaler, parce que en fait les graisses saturées, c'est justement celles qui font que c'est solide. Alors pour que ce soit moins solide, on rajoute un petit peu de graisse insaturée, celle qu'on trouve dans les huiles, pour que ce soit plus facile à tartiner. Donc, c'est un petit peu mieux au niveau valeur nutritionnelle.
Ah bah alors ça c'est dingue. Alors on va y revenir justement à ce beurre plus facile à tartiner dans un instant. On va voir quelle quantité de beurre aussi on peut consommer chaque jour. Oui. Certains s'inquiètent encore vraiment du cholestérol. Bref, on va faire un point sur ce fameux beurre et ce sera avec vous. Et puis ensuite, on fera de la cuisine. Alors est-ce qu'elle utilisera du beurre, Sonia Esguillon? C'est tout à fait possible, mais dans des quantités modérées évidemment. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Sonia Esguillon nous rejoindra tout à l'heure pour nous proposer des plats tradis. Bah oui, on a envie de cuisiner quand il fait ce temps-là, quand on est au froid, quand on est confiné, on se dit qu'on va revenir à des bonnes choses de base. Et puis Solveig Darrigaud-Dartinet, elle est avec nous et on parle du beurre.
Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre.
J'aime bien le beurre. Mais c'est vrai, Solveig Darrigaud-Dartinet, c'est très calorique. Ok, d'accord. Il y a plein de graisse. Ok, d'accord. Mais néanmoins, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Bonne tartine d'un bon pain de campagne avec du beurre, c'est, je sais pas, il y a un côté doudou.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a quand même une bonne partie de la France. On dit souvent la France du Nord est plutôt au beurre, la France du Sud à l'huile. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de notre histoire familiale, hein, notre histoire culinaire.
Ah ben, moi, j'ai été élevée à la crème et au beurre.
Et oui, on a
exactement, et j'adore le beurre demi-sel ou le beurre salé des Bretons, comme quoi la Normandie et la Bretagne peuvent se retrouver. Alors, il faut en consommer peu, vous nous avez expliqué néanmoins qu'il y en avait beaucoup de différents, et je voudrais qu'on revienne sur ce fameux beurre tendre dont vous nous avez parlé, qui est un beurre plus tartinable. Alors, pardon de le dire comme ça, mais moi je le trouve fadasse, et j'ai l'impression de ne pas avoir du beurre, et ça me fait penser à de la margarine. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça s'approche justement de la margarine?
Oui, disons que en fait, quand on a moins de graisse saturée, ça devient effectivement plus mou. Mais on peut sortir le beurre aussi à l'avance et puis avoir un beurre plus mou. Mais c'est vrai que ce beurre tendre, on a l'impression qu'il y a des petites gouttes d'eau qui perlent. On a l'impression. Voilà, c'est effectivement, c'est pas bien sûr. Puis on a moins de gras, donc on a moins de goût. Hein, le goût est
donc c'est meilleur pour la santé.
Alors c'est bien, disons, ça dépend encore une fois, si on consomme pas beaucoup de beurre, autant prendre du bon beurre plutôt que du beurre voilà, allégé ou du beurre tartinable. Maintenant, il y a eu cette demande et a priori, ça fonctionne bien puisque ça se vend bien et sinon ça aurait disparu de nos rayons hein, de supermarché. Mmh. Donc il y a quand même une attente de certains consommateurs face à ce beurre tendre. Voilà.
Quand j'étais petite, ma grand-mère à table, elle mettait du bon beurre qu'elle faisait elle-même et de la margarine.
Alors oui, la margarine, elle a évolué, hein, elle n'est plus non plus ce qu'elle était peut-être à cette époque. En fait, la margarine, à la base, c'est de l'huile solide qu'on a solidifiée. Donc, c'est un process qui permet justement, les procédés de fabrication ont évolué. Et aujourd'hui, donc, à partir du moment, alors il y a pareil, hein, des qualités de margarine, il y en a des très bonnes et des très mauvaises. Mais la margarine, c'est quelque chose qui était adapté pour les gens qui avaient plutôt justement des problèmes de cholestérolémie, pour qu'ils puissent manger de l'huile, mais qu'ils puissent, comme vous disiez tout à l'heure, faire cuire dans la poêle une lichette, non pas de beurre, mais de margarine, pour faire cuire un steak, une omelette ou je ne sais quoi. Donc, c'était pour avoir des graisses de qualité adaptée, donc insaturée, type huile, voilà.
Ok, et donc c'est bien aussi alors la margarine, parce que moi je me souviens que c'était considéré un peu comme du sous-beurre à table.
Oui, ben en fait, je dirais qu'aujourd'hui, on a des margarines qui sont faites avec des huiles de qualité comme l'huile de colza, l'huile d'olive, et on a une richesse en oméga 3 et c'est bien ça qu'on recherche un peu dans ces margarines, c'est-à-dire des bonnes graisses telles qu'on les aurait dans l'huile. Alors idéalement, moi, je conseille plutôt de cuisiner à l'huile. Et puis voilà, maintenant la margarine, elle s'utilise aussi pour faire une pâte à tarte ou dans la pâtisserie parce qu'elle est malléable, elle est molle, elle est pratique. Donc voilà, ça peut correspondre à une certaine catégorie de consommateurs qui font attention parce qu'on leur a dit attention, pas trop de beurre, mais encore une fois ça dépend s'ils consomment aussi beaucoup de fromage, beaucoup de charcuterie, beaucoup de viande grasse.
Oui, c'est ça en fait.
Et nous en tant que diététiciens, on est obligé de faire la part des choses et pas forcément supprimer. Si vraiment les gens y tiennent au beurre, bah bien sûr on autorise et ils ont le droit de consommer du beurre. Maintenant, s'il y a un cumul de beaucoup de graisse saturée qui peut avoir une incidence sur les maladies cardiovasculaires, on va être vigilant et on va voir avec eux où on peut réduire un petit peu ces graisses saturées.
L'huile de coco, le beurre de coco, l'huile de coco, on nous en parle aussi.
Ça le vend en poupe. Alors, c'est solide. C'est solide. Donc, c'est très riche en graisses saturées. Donc, même si ça a certains avantages gustatifs, ça reste une matière grasse qui ne doit pas être consommée au quotidien à tout va. Pour moi, ça reste quand même une huile de consommation non courante. Et on privilégie plutôt les huiles végétales, huile de colza, huile d'olive, etc. Donc, on est un peu plus vigilant parce que même si c'est à la mode.
Est-ce qu'on peut congeler le beurre ?
Oui, bien sûr, ça se congèle. Il y en a qui le congèlent parce que ben voilà, ça dépend si effectivement on achète des grosses quantités en ce moment, pourquoi pas. Je ne sais pas si les gens font des stocks. Sinon, ça, on a tendance à regarder la date de consommation qui est de 3 semaines quand vous l'achetez pour la conservation. Mais vous pouvez aller au-delà de cette conservation qui peut être jusqu'à 2 mois. Alors, le seul truc qui va changer, c'est bien sûr le goût. Donc, les qualités gustatives vont changer. En revanche, les qualités nutritives, pas trop quoi, hein, donc il n'y a pas de souci.
Solveig, comment est-ce qu'on choisit un bon beurre ? Parce qu'on a énormément de propositions. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un bon et un mauvais beurre ?
Ben, en fait, le beurre va dépendre aussi de la qualité de ce qu'a mangé la vache. Parce que, suivant l'herbe, eh bien, son lait ne va pas du tout avoir la même qualité. Et aujourd'hui, quand vous achetez du beurre, vous pouvez vérifier. Sur l'étiquette, il y a un logo bleu-blanc-cœur qui indique que les vaches ont mangé des bonnes herbes riches en oméga-3. Et du coup, quand vous mangez ce beurre, eh bien, vous avez beaucoup plus de bonnes graisses oméga-3, le double d'un beurre standard. Donc, c'est quand même très intéressant.
Eh bien, merci pour toutes ces informations, Solveig Darigaud-Dartinet. Je rappelle votre site www.cuisine3s.fr et puis votre ouvrage aux éditions Rustica, Goûter sain et naturel. C'est vrai qu'on a envie de faire des goûters en ce moment avec le temps qu'il fait. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, Solveig.
Merci, Flavie. Au revoir.
À bientôt sur RTL.
Tu me fais chaud.
Bonjour Sonia Esguignan.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière, auteure et journaliste. Est-ce que vous cuisinez au beurre, vous, Sonia?
Ben oui, pas le pot-au-feu, mais oui, j'adore cuisiner au beurre. Et je voulais ajouter une petite chose. J'adore les beurres aromatisés. Alors en fait, avec un petit beurre, j'ajoute des zestes d'orange, du thé matcha ou alors des paillettes d'algues. Et en fait, ça donne des petits beurres aromatisés qui sont top, par exemple, pour l'œuf à la coque.
Oh, mais attends, mais c'est super. Alors attendez, avant qu'on passe à nos plats traditionnels familiaux, comment vous faites avec les zestes d'orange? Vous mettez les zestes d'orange directement
c'est
dans le beurre?
C'est simple. On sort le beurre du réfrigérateur, on le laisse un tout petit peu ramollir. À part, on va préparer, évidemment, avec des oranges bio ou des citrons bio, avec une petite râpe, on va râper des zestes d'orange, de citron ou même de cédra. Ça va bientôt être la saison. Et puis, on va les incorporer. Alors, avec un couteau à beurre ou un couteau à bourron, on va les incorporer. On va bien malaxer ça au beurre. Et on va faire soit des petits boudins, soit on refait une petite motte de beurre, on le met au réfrigérateur et on consomme petit à petit. Alors là, tous les petits plats classiques, par exemple l'œuf à la coque, terrible. Les coquillettes, les pâtes coquillettes avec du beurre, mais comme c'est bon avec du beurre d'algues ou par exemple un beurre au thé ou un beurre à plein de choses, on peut aromatiser avec ce qu'on a sous la main. Franchement, c'est top.
Oh là là, mais et attendez, je vais faire ça cet après-midi, je trouve ça génial.
Alors,
quoi. En plus, vous savez quoi Non mais c'est merci pour tous les conseils que vous nous donnez parce que c'est
rigolo
vraiment...
Et puis pour les recettes aussi sucrées, on prend par exemple du beurre, on rajoute. Moi je mets par exemple beaucoup de graines de sarrasin. Je mets des épices comme la cannelle ou autre, et j'obtiens en fait un beurre aromatisé qui va me servir à faire des recettes hyper classiques, mais qui vont avoir tout de suite un autre goût. Donc ça c'est vraiment sympa à avoir dans son frigo.
Oui, puis comme vous avez raison, on peut prendre une motte de beurre et puis on peut en faire vraiment à chaque fois des petits beurres aromatisés complètement différents. Et on n'est pas obligé d'avoir une énorme motte de beurre.
Sur une jolie table, par exemple, pour le dimanche, sur une jolie table, plutôt que d'avoir simplement un petit beurre juste comme ça à tartiner sur un bout de pain, et ben on sort ces petits beurres qui ont évidemment tous des couleurs différentes. Et c'est très, très chouette.
Oh, je vous kiffe. Bon, on vous retrouve dans un instant, Sonia Guignan, parce qu'avec vous, on va parler, parce que vous étiez quand même venue pour ça à la base. Des plats traditionnels familiaux avec une bonne recette. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Sonia Isguignan, cuisinière, est notre invitée jusqu'à 10h. Elle vient de nous expliquer comment sublimer nos beurres, mais pour l'heure, place au pot-au-feu. Non, c'est trop tôt ça. C'est trop tôt pour se faire engueuler comme ça. Sonia Isguignan, merci d'être avec nous. On va parler du pot-au-feu. C'est clairement un plat traditionnel familial. C'est quoi? C'est l'histoire en fait du plat qui crée une ambiance hyper conviviale. Moi, j'ai l'impression que c'est la cuisine d'avant, quoi.
Oui, et puis c'est un plat cool. En plus, je trouve que c'est, alors pour le coup, un plat extrêmement simple à faire. C'est juste très long. Il faut avoir dans la tête que on s'y prend pas 2 heures avant de manger. Là, c'est pas possible de le faire pour le déjeuner. On le fera pour demain, par exemple. C'est un plat très long qui demande au moins, si possible, 2 ou 3 viandes différentes. Pourquoi? Eh bien, pour donner en fait une richesse aromatique au goût du bouillon. Et au goût de tout le pot-au-feu, parce que le pot-au-feu, ça va parfumer en fait les légumes, ça va vraiment parfumer tous les éléments du pot-au-feu. Donc en règle générale, moi j'aime bien mettre au moins de la macreuse. C'est ce morceau de viande qui a une petite ligne gélatineuse qui est très caractéristique, qui est près du collier donc de bœuf, qui est très très goûteuse. On met en général du plat de côte. Ça, c'est la viande qui a deux petites couches de graisse, en fait. Mmh. Et ensuite, on peut mettre ce qu'on a aussi chez le boucher. Il faut se faire conseiller chez son boucher. Alors, ça peut être de la queue de bœuf. On peut rajouter du jumeau. En fait, il faut vraiment faire confiance à son boucher et lui dire, moi, j'aime bien, par exemple, le pot-au-feu un peu rustique. On peut mélanger les viandes. On n'est pas obligé de faire un pot-au-feu qu'avec du bœuf. On peut utiliser un pot-au-feu avec du veau. C'est très, très bon avec un jarret de veau, par exemple. Et on peut aussi ajouter même de la volaille. Il y a certains pot-au-feu, notamment dans la Bresse, qui utilisent également des morceaux de volaille. Donc, ne pas hésiter à mélanger les viandes. Et puis alors la petite astuce, c'est que on prend son temps. Donc au départ, on met ses viandes dans la casserole. On recouvre d'eau froide, on laisse mijoter à tout petit feu pendant 1 heure en écumant régulièrement. Ça, c'est très important pour avoir un bouillon top. On écume, c'est-à-dire qu'on prend l'écumoire, et on va à la surface de l'eau enlever cette petite écume qui est assez facile à retirer. C'est tout, c'est pas plus difficile que ça. Après, on ajoute ce qu'on veut à l'intérieur. Alors évidemment, c'est mieux si on a un petit bouquet garni avec un oignon et des clous de girofle. Après, on va mettre les légumes au fur et à mesure. Donc par
tout
exemple,
dans le même fait-tout quoi. Enfin, tout dans le même.
Voilà. Une fois qu'on a bien écumé le bouillon, c'est ça le plus difficile. Alors évidemment, au début, on met rien dans le bouillon. On met ni poivre ni sel. Quand le bouillon est bien écumé, c'est-à-dire qu'il ne fait plus d'écume, là on ajoute du sel, du poivre, le bouquet garni, l'oignon avec les clous de girofle, et petit à petit, on va ajouter les légumes en fonction du temps de cuisson. Alors les premiers qui vont cuire, ce sont les poireaux, ensuite on peut mettre du chou, il y a des gens qui sont étonnés quand je mets du chou dans le pot-au-feu, mais moi je trouve que ça donne extrêmement bon goût. On peut mettre du céleri rave, on peut mettre des carottes, des navets, enfin voilà, ce qu'on a trouvé au marché. Et alors une petite astuce, comme on va mettre les indispensables au samoil, parce que ça c'est très important, on va les mettre à la fin, ils vont cuire environ 30-40 minutes à peu près à la fin dans le bouillon. Pour éviter que l'intérieur de l'eau samoil fonde en fait dans le bouillon, moi je coupe deux petites lamelles de carottes que je ficelle autour de chaque côté de l'eau samoil. D'abord c'est très joli à servir. Et c'est très pratique parce qu'on ne perd pas une miette de moelle. Donc ça, c'est
top. Oui, en fait, on bouche l'eau sa moelle, pardon de le dire comme ça, mais avec de la carotte.
C'est ça. Exactement. Okay. On obture en fait les deux morceaux puis on fait une petite ficelle. Je vous ai mis des photos, hein, comme ça vous regarderez sur le site, etc.
Génial.
Mais franchement, c'est très pratique et ça fait très joli quand on va servir le grand plat, parce que c'est ça aussi le bonheur du pot-au-feu, c'est de servir un très grand plat avec les différents morceaux de viande, les différents légumes. Et puis moi, ce que j'adore, c'est une petite tasse avec du bouillon, parce que qu'est-ce qu'il est bon ce bouillon.
Donc on boit le bouillon directement.
Une petite tasse, moi j'aime bien. Alors après, évidemment, vous me connaissez. Moi, ce que j'adore, c'est le lendemain de pot-au-feu. Parce que, évidemment, avec ce pot-au-feu, pendant au moins 2-3 jours, on va faire plein de recettes. Des croquettes, des petits parmentiers.
S'il en reste, parce qu'en général, c'est tellement bon qu'on a tendance à le terminer. Quoi.
Alors, vous me connaissez, moi je suis vicieuse. Hein, j'en prépare pour 10 alors qu'on est que 4. Donc, comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir du pot-au-feu pour des restes.
Alors, racontez-nous juste une petite recette rapide pour recycler.
Une de mes préférées, c'est je prends une des viandes que je vais effilocher. Je vais fabriquer une toute petite boulette avec cette viande. Alors, l'astuce pour que la boulette tienne très très bien, c'est je mixe la moitié de la viande et je laisse l'autre moitié effilocher. Ça va faire une farce très facile, très maniable en fait. Et donc, je fais une boulette. Avec mon pouce, je creuse. À l'intérieur, je vais mettre des petites olives, des capres, de l'estragon. Je referme. Je roule dans la chapelure et je fais cuire tout doucement à la poêle. Et après, si on veut, on peut mettre un peu plus longtemps au four si on veut faire très, très croustillant. Là, on a une croquette extrêmement croustillante sur le pourtour. Et quand on ouvre... Le parfum qui se dégage, c'est quelque chose.
Oh, mais vous en parlez tellement bien, j'ai envie de venir chez vous.
Eh bien, bon, une dérogation. Est-ce qu'il y a une ligne avec la dérogation Urgence gourmandise.
Ah non, mais écoutez, c'est génial. Et puis alors, effectivement, ce que l'on entend, c'est que ça peut durer plusieurs jours. On peut en refaire quelque chose. Dernière question, est-ce que ça se congèle ?
Tout se congèle. Alors moi, je conseille, à part, c'est-à-dire, on congèle la viande dans une petite boîte, on peut congeler évidemment les légumes, et le plus précieux, on congèle le bouillon, parce que le bouillon, c'est ce qui va vous permettre de faire des super soupes, des risottos à tomber, etc. Donc ça, le bouillon, c'est très, très précieux.
Eh bien, je vous remercie, Sonia Esgulian, parce que c'était super. Je rappelle
passé un super moment.
Ah ben non, mais entre le beurre et le pot-au-feu, là, on est vernis, c'est formidable. On rappelle que l'on peut retrouver cette recette sur votre page Instagram, Sonia Esgulian, et puis on la met également sur nos réseaux sociaux. Bon, alors avec tout ça, évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de se donner des bisous. Des bisous pour se dire au revoir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Sonia, je vous embrasse bien fort. Merci
bientôt.
À vous d'avoir été en notre compagnie en ce samedi matin. Si vous souhaitez prolonger le plaisir, retrouvez-nous voilà bien en replay sur RTL.fr et les plateformes de podcast dédiées. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, 9h15, dans Nous voilà bien. Allez, prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Soyez prudents et cuisinés. Je vous embrasse.